Delhi, l'étoile du roi Boris. Chapitre 1. Par les fenêtres largement ouvertes, le soleil de juin entrait dans la salle d'études, grande pièce aux tentures claires, aux meubles faits d'un bois jaune pâle, veiné de rose. Il glissait sur les livres et les cahiers, couvrant la table de travail, et venait éclairer la blonde chevelure bouclée et le beau visage du jeune roi Destiny, appliqué à la solution d'un difficile problème de mathématiques. Un calme absolu s'étendait aux alentours. Pendant ses séjours au château de Volhynia, le roi Boris, l'élève le plus studieux de son royaume, disaient les courtisans, venait toujours travailler dans ce pavillon, placé à la lisière du parc, près de la forêt qu'il aimait passionnément. Ce jeune souverain de 16 ans était déjà remarquablement instruit et montrait un précoce sérieux qui ne nuisait aucunement, d'ailleurs, à la gaieté de son âge, dans l'intimité de sa famille et avec ses compagnons de jeu. Dans la pièce voisine, le gouverneur de Sa Majesté, le général Dubretko, se plongeait dans la lecture d'un récent traité de tactique militaire. Tout à l'étude d'une palpitante question stratégique, il en oubliait son royal pupille, dont le temps de récréation avait sonné depuis quelques instants. Mais le jeune souverain venait de résoudre victorieusement le problème donné, et, levant les yeux sur le cartel pendu en face de lui, il s'avisait qu'il était temps d'aller changer de vêtements pour la promenade à cheval projetée avec ses amis. Il ferma ses cahiers et se leva vivement. Le soleil, mauvais courtisan, vint le frapper au visage, l'obligeant à baisser les yeux, ses grands yeux noirs si beaux et si fiers, mais si doux aussi, lorsqu'il le voulait, qui avait pris le cœur de ses sujets et faisait dire à un vieux soldat complimenté par lui sur une action d'éclat « Pour un regard de mon petit roi, j'en ferai bien encore à la douzaine. » Il s'avança dans la galerie de bois, en guirlandée de roses, qui surplombait un chemin bordant la forêt, très peu fréquenté, en dehors des gardes forestiers et des bûcherons. Un bruit de voix arrivait aux oreilles du roi, organe cassé, chevrotant, et timbre enfantin d'une harmonieuse douceur. Boris se pencha un peu. À l'orée d'un sentier se tenait une vieille femme, courbée, lamentable, vêtue de haillons. À terre, près d'elle, avait glissé un sac lourdement rempli, à en juger par l'apparence. En face de la pauvresse, venait de s'arrêter une petite fille d'une dizaine d'années, vêtue d'un sarrau bien blanc. Son délicieux visage au teint rosé, encadré de superbes boucles brunes, exprimait une ardente compassion, sa voix tremblait d'émotion en demandant « Alors, pauvre femme, vous n'avez plus rien, rien du tout, pour nourrir vos petits-enfants ?»« Rien, absolument rien, ma petite demoiselle. Une bonne âme, pas bien riche elle-même, m'a remis un papier me donnant droit à aller chercher à la ville un sac de pommes de terre. J'en viens, mais c'est trop lourd pour moi, je ne peux pas continuer. Et pourtant, mes petits m'attendent. Ils ont faim. Je vais essayer encore. » Elle se penchait, tentait de soulever le sac. Les petites mains de l'enfant essayèrent de l'aider, mais leurs forces réunies n'étaient pas suffisantes encore. La pauvresse, avec un gémissement navrant, laissa retomber sur le sol le fardeau trop pesant. « Il faudra donc le laisser là, et que mangeront mes petits ? Ô Vierge secourable, ayez pitié de nous !» s'écria la malheureuse en joignant les mains. Inconsciemment, l'enfant avait fait le même geste. « Oh, si j'avais seulement un peu d'argent! Mais je n'ai rien, rien du tout !» dit-elle avec désolation. Son regard, en se levant machinalement, tomba sur la galerie. Il vit le jeune homme accoudé à la balustrade et paraissant écouter et regarder avec attention. Les grandes prunelles d'un bleu sombre, où rayonnait une douceur ravissante et la plus délicieuse candeur, brillèrent sous l'impulsion d'une idée soudaine. L'enfant s'avança et tendait son petit tablier d'un mouvement spontané et charmant. « La charité, s'il vous plaît » dit-elle d'un ton de prière qu'accentuait l'expression suppliante, irrésistible, de son regard. Le roi sourit, sa main se glissa vivement dans sa poche et saisit son porte-monnaie. Avec adresse, il se mit à lancer une à une dans le tablier de l'enfant toutes les pièces d'or qu'il contenait. « Oh, tout cela, tout cela !» balbutia la petite fille, étouffée par la joie. Elle prit les pièces et les mit dans les mains de la vieille femme, qui regardait ébahie. « Pour moi, pour moi !» murmura la pauvresse. Oui, pour vous. Maintenant, vos petits-enfants auront du pain grâce à ce monsieur si bon. » Et levant de nouveau vers la galerie son regard radieux, elle dit avec un ravissant sourire « Merci, oh merci, monsieur, que Dieu vous bénisse !» Boris étendit la main, il cueillit une des roses pourpres qui ornaient la galerie et la lança si adroitement qu'elle vint se planter dans les boucles brunes de l'enfant. « Priez pour le roi, petite colombe » dit-il avec un sourire ému. L'enfant eut un mouvement de recul, son visage s'empourpra. « Le roi, est-ce que vous êtes... » « Mais oui, le roi lui-même, très heureux de s'être trouvé là pour venir en aide à une de ses sujettes dans la peine. « Eh bien, vous voilà tout émotionnée, petite fille. Vous ferai-je peur par hasard ?» Il riait gaiement en se penchant entre le feuillage des rosiers. L'enfant joignit les mains. « Peur ? Oh non, vous êtes trop bon pour cela, et je suis si contente de connaître le roi. « Vraiment ? Pourquoi donc, enfant ? J'avais entendu dire qu'il était si beau, si aimable et si bon, et je vois bien maintenant que c'est la vérité. » Les flatteries de toutes sortes n'avaient jamais manqué au jeune souverain, mais aucune ne lui avait causé un plaisir comparable à ce naïf compliment, échappé de la bouche sincère de cet enfant au regard lumineux, timidement admiratif. « Merci, petite fille, » dit-il en riant. « Et vous, qui êtes-vous ? « Je m'appelle Hélénie, j'habite à la lisière de la forêt, dans une petite maison qu'on appelle la maison aux lilas. »« Hélénie, êtes-vous de race grecque ?»« Oui, mon grand-père est grec, mon oncle Hippias et ma tante Lénio aussi. »«
Vous n'avez plus vos parents ?»«
Non, je suis orpheline depuis longtemps, car je ne les ai pas connus, » dit-elle avec mélancolie.
« Pauvre petite !» « Eh bien, quand je passerai à cheval du côté de votre maison, je m'arrêterai et vous me présenterez à votre famille. Ma mère est grecque et j'aime beaucoup ses compatriotes. »«
Je vais prier Notre-Dame de la Victoire pour votre majesté, » dit l'enfant avec élan.
« Oui, priez pour moi. Un roi en a plus besoin que tout autre. Et que demanderez-vous à Notre-Dame, petite Hélénie ?»
Quelques secondes, l'enfant réfléchit, son regard étonnamment profond, levé vers le jeune souverain. « Qu'elle garde le roi tel qu'il est maintenant, » répondit-elle d'un petit ton grave.
« C'est aussi la prière de ma mère, » dit le roi avec émotion. « Merci, Hélénie, et au revoir. »
Devant la porte encadrée de lierre, se tenait debout, le cigare aux lèvres, un homme de haute taille, au visage fort beau, en dépit des rides profondes qui le creusaient, à la chevelure longue, d'un noir intense semé de fils d'argent. Comme l'enfant passait près de lui, il abaissa vers elle des yeux sombres, très durs et d'une acuité singulière. Son regard tomba sur la rose, qu'Hélénie serrait précieusement entre ses petits doigts.
« D'où vient cette fleur ? » demanda-t-il d'un ton bref.
Timidement, elle leva les yeux vers lui.
« Grand-père, c'est le roi qui me l'a donnée. »
« Le roi ?» Stéphanos avait bondi, une effrayante expression de fureur bouleversait son visage. Il saisit brutalement entre ses doigts nerveux le frêle poignet d'Hélénie.
« Où l'as-tu vu ? Que lui as-tu dit ?»
Tremblante de terreur, elle résuma, d'une voix entrecoupée par l'effroi et par la douleur que lui causait la rude pression des doigts de son aïeul, la petite scène qui s'était déroulée dans la galerie du pavillon de Volaïna. Pâle, les dents serrées, les traits durement contractés, Stéphanos l'écoutait. Quand elle eut fini, il saisit la rose, la jeta à terre, la piétina furieusement.
« Qu'il soit écrasé, anéanti ainsi, et toute la race des tyrans, oppresseurs des peuples !» rugit-il d'une voix rauque. « Et pour toi ?»
Il saisit l'enfant par le bras, la secoua violemment et l'envoya rouler à terre. Une singulière expression de triomphe étincelait dans son regard. Il tourna brusquement les talons et rentra dans la maison. Un long moment, la petite Hélénie demeura tout étourdie et tendue sur le sol. Elle put enfin se relever et demeura un instant immobile, la poitrine soulevée de sanglots. Son regard tomba sur la pauvre chose écrasée, méconnaissable, qui avait été la rose du roi Boris. Elle se laissa tomber à genoux, prit ses débris informes et les porta à ses lèvres.
« Pardon, pardon !» murmura-t-elle en pleurant. et sur la pauvre Rose tombèrent les larmes amères de l'enfant dont le cœur délicat venait d'être profondément meurtri par la révélation d'une haine farouche.